Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin aux éditions Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.
En route pour Saint-Jacques par le chemin du Nord, notre marcheur nous parle de la Cantabrie qu'il va bientôt quitter. Beauté profanée. Certains d'entre vous qui ont visité en touriste la côte cantabrique sont probablement révoltés par la présentation négative que j'en fais. Ils ont envie de me lancer. Santillana del Mar, Comillas, Columbras. Autant de lieux chargés d'histoire, autant de villages, considérés à juste titre comme des joyaux d'architecture. Ces lieux sont beaux, je l'admets. Mais si je me place dans la perspective de ce récit, qui est celle du marcheur, il ne rachète en rien la monotonie des paysages industriels. Sans doute ne les ai-je pas visités à la bonne époque. Au creux de l'hiver, sous un voile de nuages, il dégage sûrement une poésie qui les situe hors du temps. Hélas, au mois de juin, par un chaud soleil, ces lieux historiques sont ensevelis sous des foules de touristes. Des cars stationnent à leurs abords, qui déversent des visiteurs venus du monde entier. Les ruelles se chargent de badauds que remorquent, parapluies en l'air, des guides vociférants. On peinerait à trouver une boulangerie ou une épicerie, mais les échoppes de souvenirs se succèdent, couvrant les vieilles pierres de présentoirs affreux auxquels sont suspendus des colifichets. Les places sont envahies de chaises en plastique et de parasols dédiés au dieu Coca-Cola. Le menu à 8 euros et les bocadillos dévoilent leur charme sur de grandes ardoises. Ivre de solitude, le pèlerin est étourdi dans ce capharnaüm. Lui, qui n'a rencontré personne ou presque sur le chemin, s'étonne de voir proliférer dans ses ruelles des personnages arborant force coquille Saint-Jacques et autres attributs du chemin. Il y a bien parmi eux quelques marcheurs authentiques. Les autres, dans leur immense majorité, sont chaussés de mocassins en cuir ou d'espadrilles. Leur élégance, leur propreté, leur fraîcheur sont bien peu compatibles avec les fatigues du chemin. On comprend, lorsqu'on les voit regagner l'écart, qu'ils appartiennent à la catégorie des pèlerins motorisés. Les tours opérateurs leur ont vendu Compostelle et les y conduisent en faisant de courtes haltes aux endroits intéressants. Le pèlerin marcheur se révolte bien injustement contre ces pratiques. Après tout, elles rendent le pèlerinage accessible à des personnes qui n'ont ni le temps ni l'âge de marcher pendant 1000 km. Mais par-delà les jugements de valeur, il est vrai que la présence de ces foules fait obstacle à la contemplation sereine des monuments. Le marcheur est placé en Cantabrie au cœur d'un dilemme. Soit il dispose à profusion de silence et de solitude, mais c'est pour traverser des paysages sans grâce et longer des routes monotones, soit il a devant lui des merveilles d'architecture, mais il les aperçoit à peine, perdus au milieu d'une humanité bruyante chez qui le caméscope a remplacé l'œil et l'autobus les jambes. J'ai pris la fuite. Santillana del Mar, le plus beau village d'Europe, selon Jean-Paul Sartre. Mais que faisait-il donc là ? M'a retenu 10 minutes. Le temps de boire un jus d'orange dans le patio d'un restaurant. Aucune des serveuses que j'interrogeais ne connaissait le village. Elles venaient toutes d'ailleurs recrutées pour la saison estivale. Un congrès de médecine ajoutait ses foules et ses bus à la masse déjà compacte des touristes et des pèlerins motorisés. Je quittais sans regret ces superbes maisons qui n'avaient plus à mes yeux aucune réalité tant elles étaient devenues un simple décor, celui d'une tragédie moderne qui se nomme le tourisme de masse. Et sitôt retourné au silence du chemin, j'eus le sentiment d'avoir échappé à un naufrage. Il se trouve de surcroît que les paysages après Santillana sont d'une sereine beauté. Une ermita déserte tout en haut d'une colline propose à l'œil une consolation bienvenue après les foules du village. Et l'on se dit que les ermites étaient peut-être déjà saisis du même trouble qui nous a fait tout à l'heure quitter la bousculade. L'esprit du chemin est bien là, dans ce désir de parcourir le monde pour le fuir et de retrouver les autres là où il n'y a personne. Les hommes, écrivait Alphonse Allais, aiment se rassembler dans les déserts. Comme il y a, c'est un peu moins encombré de touristes. Mais la folie de Gaudi attire beaucoup de monde. Et je n'ai retrouvé la paix qu'en me couchant sur les immenses gazons déserts qui bordent les bâtiments néo-gothiques de l'université pontificale. Quant à Columbras, il est l'épicentre de la région où les Espagnols partis faire fortune en Amérique du Sud ont choisi de bâtir des palais. La pluie tombait dru quand j'y arrivais. Je me réfugiais sous un auvent du musée de l'Indien, un de ces bâtiments construits par les fils prodigues du retour des tropiques. Les trombes d'eau avaient chassé les visiteurs comme les habitants, et l'endroit reprenait un peu de son charme nostalgique. Il témoigne d'une autre aventure qui n'appartient plus au monde jacquaire, mais à son prolongement. Le chemin que les émigrants ont tracé sur l'océan, bien plus à l'ouest que Compostelle, jusqu'aux terres américaines. C'est une autre sensibilité, une autre histoire, et elle ne me parlait pas à ce moment-là. Ces palais vides me semblaient plus proches des lotissements déserts qui défigurent les villes et les villages de la région que des œuvres médiévales semées par les pèlerins le long du chemin. J'ai quitté Columbras sans autre regret que de retrouver une nationale. La pluie battait fort et j'ai trouvé refuge dans un motel pour routiers. Pendant la nuit, le bruit des camions qui soulevaient des gerbes d'eau m'a servi de berceuse. On a les cantilènes qu'on peut. Échaudée par ces mauvaises expériences, j'ai cru pouvoir trouver mon bonheur dans une cité historique moins connue et moins visitée, où je suis arrivée en même temps que le soleil, à la fin d'une après-midi pluvieuse. San Vicente de la Barquera est située sur un estuaire. Le pèlerin aperçoit la ville de loin en traversant un long pont routier. Les quartiers du port ne sont guère attirants, dédiés à un tourisme de pêche et de bain qui n'était pas encore de saison. Quelques visiteurs égarés déambulaient sous les arcades de la rue commerçante. La seule consolation qu'ils eussent trouvée était d'énormes glaces qu'ils dégustaient en marchant. J'en achetai une, sur la foi de tous ces témoignages de plaisir, et ne fus pas déçu. Muni de mon cône coiffé de crème glacée, framboise et cassis, je quittai la ville basse et entrepris de gravir les ruelles qui montaient vers la citadelle. L'endroit était magique. Bien restauré, mais pas trop léché. Tranquille, mais pas désert. Plein de souvenirs médiévaux et cependant habité et vivant. Le quartier historique de San Vicente est une friandise pour pèlerins désespérés. Si rétif que soit le marcheur à la quincaillerie historique du chemin, il finit par se faire prendre au jeu de la nostalgie. Le pèlerin aime sentir qu'il met ses pas dans ceux de millions d'autres qui ont emprunté le même parcours pendant des siècles. Voilà pourquoi, si on lui en donne l'occasion, et San Vicente répond à cette attente, le pèlerin, quel qu'il soit, aime sentir vibrer autour de lui les pierres. Il éprouve une jouissance sans pareille à laisser son imagination le tromper, brouiller les époques, lui laisser croire qu'il est retourné au temps du nom de la rose. La citadelle à San Vicente, contrairement aux villes nécrosées qui jalonnent le parcours cantabrique, reste un lieu vivant, dans lequel s'opère cette transmutation du présent en éternité. J'avais terminé ma glace depuis longtemps, que j'étais encore à déambuler sous le charme de cette cité merveilleuse. Il commençait à se faire tard, je décidais de chercher un endroit où faire halte pour la nuit, parmi ces murs qui me parlaient si intimement. Dans l'antre du gourou. C'est alors que je repérais, dans un bâtiment proche de l'ancienne mairie, une albergue privée. L'entrée n'était pas sur la rue, mais en contrebas. Il fallait passer par la porte d'un garage en sous-sol. Des collections de chaussures de marche soigneusement alignées dans des casiers indiquaient que l'on était bien au royaume des pieds qui puent, dont j'étais devenu un des sujets et à cet égard pas des moindres. J'ajoutais mes fidèles compagnons de Guernica à la collection hétéroclite des brodequins exposés, puis j'entrais. La première pièce, assez vaste, était occupée par une immense et unique table tout en longueur. Au mur étaient épinglées d'innombrables cartes postales, des photos, des articles de journaux depuis longtemps passés, sinon au soleil, ils ne devaient jamais pénétrer dans ce sous-sol, mais au moins à l'oxygène pourtant rare de l'air ambiant.
C'était « Immortelle randonnée » de Jean-Christophe Ruffin aux éditions de Guérin, une lecture de Christelle de Limerville.